thème de notre temps d'adoration ce matin, c'était « Jésus est la lumière pour éclairer les nations ». Et Noël, c'est l'époque où on parle beaucoup, enfin, où il y a, on voit de partout des lumières qui scintillent. Hein. Encore ici, des ampoules éclairées. Et quand on fait un... je ne sais pas si ça existe chez vous, mais chez nous, ils font les concours de la maison la plus décorée, hein, la mieux décorée à Noël. Et la première chose que les gens mettent, ce sont des lumières, hein, le plus possible. Hein, c'est ça qui est la chose qui revient. Et en France, à Paris, souvent, hein, les rues sont bien éclairées. Certaines rues, en tout cas de la capitale, sont bien éclairées à la période de Noël. Paris, il y a un programme qui s'appelle Paris illumine Paris. Et Paris, c'est... ce surnom de Paris, vous savez que le surnom de Paris, c'est la ville lumière. Vous avez déjà entendu ça, peut-être. Et cette année encore, malgré les difficultés sanitaires et tout cela, eh bien, je crois que les rues, certaines rues, en tout cas, grandes rues, grandes avenues, sont aussi éclairées. Mais cette lumière que l'on a cache mal, je pense, les ténèbres et la souffrance, les crises d'insécurité qui existent encore de nos jours. Alors, le thème de la lumière, ce n'est pas un thème que les hommes ont mis en valeur d'eux-mêmes, c'est le thème même de l'Écriture. Hein. Quand on lit les premières pages de la Bible, il est question de, les tout premiers versets, de ténèbres et de lumière, n'est-ce pas? Il est dit que dans l'univers, hein, la terre était informe et vide, et puis les ténèbres, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et la première chose que Dieu fait, c'est quoi? Il dit que la lumière soit. Et donc on voit de la première page à la Bible jusqu'à la dernière, et la dernière quand on lit Apocalypse, chapitre 21, il est dit, il est parlé de la ville qui n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car sa gloire, car Dieu l'éclaire, hein, la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Il est encore question ici de lumière. Donc la lumière, la première, à la dernière page, et puis on a vu encore ce thème à travers ce que nous avons chanté ici. Et dans les textes de la nativité qu'on a lus plusieurs fois déjà, eh bien, au moins par deux fois, hein, de manière explicite, on a le thème de la lumière qui apparaît. Dans Zacharie, alors Zacharie chapitre 1 au verset 78 et 79, regardez ce qui est écrit dans Luc chapitre 1, pardon, j'ai dit Zacharie, non ? Luc chapitre 1, versets 78 et 79. Donc c'est Zacharie qui s'exprime dans son cantique, mais cela se trouve dans l'évangile de Luc. Nous lisons donc Luc chapitre 1 et au verset 78. Zacharie parle du ministère de son fils, Jean, qui vient de naître et qui sera un peu le précurseur du Seigneur. Il dit, verset 77 déjà, qu'il est là pour donner à son peuple la connaissance du salut. Donc Jean-Baptiste allait donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil... déjà, quelque chose qui évoque la lumière. Le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Vous voyez ici, hein, il dit que Dieu est venu et que le ministère de Jean-Baptiste sera d'annoncer le salut. Parce que Dieu est venu, en la personne de Christ, comme le soleil levant qui est venu visiter d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Et puis en Luc chapitre 2, on l'a lu tout à l'heure, dans le cantique de Siméon, lorsqu'il voit l'enfant Jésus dans le temple, quand ses parents viennent pour accomplir tout ce qu'ordonnait la loi à son égard, au verset 29, il dit « Maintenant, Seigneur, Luc 2, 29, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Et verset 32, il dit, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc ça, par deux fois, donc on le voit ici de manière très explicite, il est question de ce thème de la lumière. Il a venu, l'incarnation de Christ, c'est la venue de la lumière dans ce monde. Alors nous voulons considérer ce matin ce que nous disent ces textes qui identifient le Messie comme la lumière ici. Premièrement, on veut considérer ceci. La première chose, je pense, qu'on peut souligner, c'est que ces textes nous disent que le monde sans Christ gît dans les ténèbres. Que le monde sans Christ gît dans les ténèbres. Je crois que l'évocation de la lumière met cette vérité en avant. Le cantique de Zacharie le souligne, hein, le soleil levant qui visite d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Et c'est ainsi que Dieu voit le monde sans Christ. Ce sont des hommes et des femmes assis dans les ténèbres, et il dit même, et dans l'ombre de la mort. Donc, Zacharie caractérise l'état des hommes qui sont privés sans Christ avec ces paroles, assis dans les ténèbres. Et c'est une allusion, bien sûr, ici au prophète Ésaïe, chapitre 9 et au verset, je vais vous lire, hein, Ésaïe chapitre 9 et au verset 1, où le prophète dit ceci, Ésaïe chapitre 9 et au verset 1, déjà la fin du chapitre 8, verset 23, selon comment c'est numéroté dans votre Bible, en tout cas moi c'est chapitre 8, verset 23, il dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre ». Donc c'est déjà le signe que c'est la nature même, hein, des hommes sur la terre que d'être dans les ténèbres. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Et c'est un peu ce texte que cite Zacharie quand il dit que le soleil levant visite d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort. L'image des ténèbres est une image qui est saisissante, n'est-ce pas, hein ? Quand on marche dans les ténèbres, on ne voit rien, on ne sait pas où on va. Et j'ai lu qu'il y a des gens qui ont peur, même des adultes, hein, qui ont peur de dormir dans le noir, dans les ténèbres. Ce n'est pas, en fait, les ténèbres même qui font peur, mais plus ce qu'on imagine être dans les ténèbres. Et la Bible déclare que c'est un état qui est particulièrement douloureux. Dans l'histoire de l'Exode, vous vous rappelez du peuple d'Israël, hein, il y a eu une plaie, la neuvième, hein, où c'était les ténèbres qu'il y a eu à la surface de la terre. Et la Bible dit que les ténèbres étaient si épaisses dans tout le pays qu'on pouvait le toucher. Bon, le texte original dit que les gens devaient aller à tâtons, un peu, hein, quelque part. Et puis, il dit ceci, et c'est assez intéressant, il dit « On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. » Et là, il y a déjà le contraste entre les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, et puis ceux qui ne le sont pas et qui demeurent dans les ténèbres. Et donc, Zacharie parle de cette obscurité. Et il la compare même à l'ombre de la mort. C'est déjà être dans les ténèbres, c'est déjà être dans l'ombre de la mort. Cette obscurité-là dit que la mort n'est pas loin, en fait. Et c'est l'état du monde tel que Dieu le voit. C'est ainsi que l'Écriture décrit aussi, hein, les incrédules. Romains chapitre 1 et au verset 21 parle de ceux qui ont connu Dieu et qui ne l'ont point glorifié, hein. Parle des impies, il dit, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé où? Dans les ténèbres. C'est ça qu'il souligne clairement ici. Ça, c'est la vraie nature du monde. Une intelligence obscurcie, une intelligence qui est plongée dans les ténèbres. C'est exactement ce que Paul dit plus loin en Éphésiens 4, 18, où il dit « ils ont l'intelligence enténébrée » ou « ils ont l'intelligence obscurcie ». Et c'est ainsi que Dieu voit le monde sans Christ. Malgré, encore aujourd'hui, malgré tout ce que l'on a pu faire comme progrès technologique, scientifique, médical, malgré les connaissances supplémentaires qu'on a pu avoir, eh bien, d'un point de vue spirituel, parce qu'on ne peut pas se dégager de cette optique-là, eh bien, Dieu dit que le monde gît dans les ténèbres. L'Écriture, bien sûr, ne conteste pas l'intelligence que l'homme a, ne conteste pas les progrès qu'il a pu faire, mais l'Écriture dit que l'intelligence, néanmoins, est plongée dans les ténèbres. Et même en faisant des découvertes scientifiques, c'est des lumières que Dieu donne sur des choses, c'est des choses qu'il laisse voir dans la nature, hein, eh bien, spirituellement, les cœurs et les intelligences demeurent plongés dans les ténèbres. Il n'y a qu'à voir à quoi l'homme utilise parfois les découvertes qu'il a, comment il les utilise pour voir que le cœur même dans son orientation et dans ses pensées est dirigé dans les ténèbres. Les ténèbres spirituelles, ténèbres morales, les ténèbres intellectuelles. Et la Bible dit même que non seulement les hommes sont plongés dans les ténèbres, mais ils sont ténèbres. C'est pas simplement qu'eux, ils sont différents et puis ils sont plongés dans les ténèbres. Ils sont eux-mêmes ténèbres. Hein, c'est ce que dit Éphésiens 5, 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, quand on est au Seigneur, on est lumière. Mais l'homme lui-même n'est que ténèbres. La nature même de l'homme sans Dieu, c'est d'être dans l'obscurité, il ne sait pas où il va, il est aveugle. C'est pour cela qu'il rejette Dieu et qu'il rejette tout ce qui est la lumière. Et notez aussi que les ténèbres caractérisent et caractériseront l'état, les ténèbres caractériseront l'état final de tous ceux qui n'auront pas reçu Christ dans leur vie. L'Écriture dit, rappelez-vous toutes les paraboles que Jésus donne, mais en Matthieu chapitre 22, pour ne citer que cela, au verset 13, il dit au roi et au serviteur, liez-lui, ça c'est le serviteur méchant, il dit, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et dans 2 Pierre et dans Jude, il est question de tous ceux qui sont réservés pour l'abîme des ténèbres. Et donc, à la fin, il y aura encore cette séparation entre la lumière et les ténèbres. Et les ténèbres vont continuer à caractériser l'homme sans Christ. Caractérise l'homme sans Christ aujourd'hui déjà, à l'époque de Zacharie, et les ténèbres caractériseront encore l'homme sans Christ à la fin des temps. Donc le monde, ce que nous disent ces textes de Noël, c'est que quand il dit que la lumière à s'élever pour éclairer les hommes. Il dit quelque part que ce qui caractérise le plus profondément les êtres humains sans Christ, c'est qu'ils sont et qu'ils demeurent dans les ténèbres. Ils sont aveugles. Ils ne voient pas la réalité. Ils ne voient pas la réalité. Et c'est pour cela que dans sa grâce, eh bien, Dieu envoie, il visite d'en haut et il envoie celui qui est la lumière. Ça, c'est la première chose que je voulais juste souligner en passant. La deuxième chose, c'est que nous disent ces textes aussi, c'est que le besoin du monde, c'est d'être éclairé. Le besoin du monde, vraiment, c'est d'être éclairé, éclairé de la lumière de la vie. Ça, c'est le besoin fondamental. Et c'est la seconde vérité que met en évidence les textes que nous avons lus dans Luc 1 et dans Luc 2. Zacharie dit que le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Et on avait insisté la dernière fois sur le fait que quand la Bible emploie ici le verbe visiter, il dit que Dieu, c'est comme Dieu, il a ausculté, il a profondément regardé. Hein, c'est un mot qui veut dire vraiment regarder avec attention. Et il apporte une solution. Il vient et il apporte une solution adéquate. Un peu comme Dieu dit au peuple d'Israël, quand il dit à Moïse, il dit, j'ai entendu, j'ai vu la misère des enfants d'Israël, j'ai entendu leurs cris, j'ai vu la souffrance que leur font subir les Égyptiens, et je suis descendu pour les délivrer ici. Et donc il vient pour répondre à ce qui est leur besoin le plus fondamental, qui était le besoin de délivrance de la main de l'esclavage des Égyptiens. Et ici, Zacharie dit que cette lumière d'en haut nous a visité. Dieu nous a visité par cette lumière d'en haut. Donc, il vient répondre à ce qui est le besoin le plus pressant pour l'homme, celui d'avoir vraiment la lumière, hein, d'être éclairé. Alors, l'état de ténèbres est un état dans lequel l'homme naturel se complaît. Il ne cherche pas lui-même à sortir de cet état-là. Jean disait ceci, il dit « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Et donc, naturellement, l'homme, il n'a pas envie de sortir de cet état. Et même à cause de ses œuvres mauvaises, il préfère encore demeurer dans les ténèbres, hein. C'est comme, on prend souvent l'image du gros caillou qu'on va soulever, où il y a plein de petites bestioles en dessous. Hein. Et puis dès que vous soulevez le caillou, vous voyez toutes les petites bêtes qui vont partir dans tous les sens. Pourquoi ? Parce qu'elles vont chercher à fuir la lumière. Elles étaient dans l'obscurité, ça leur convenait, c'était leur état naturel. Et donc quand vous soulevez le caillou, elles vont toutes chercher à s'en aller parce que la lumière les dérange. Et Zacharie et Siméon à la fois se réjouissent car ils sont témoins de l'accomplissement des prophéties qui annoncent que le Messie viendra pour répondre aux besoins le plus pressant des hommes, c'est-à-dire aux besoins de lumière. Ils ne disent pas simplement qu'il est lumière, mais disent qu'il est lumière pour éclairer, parce que c'est ce dont les hommes ont le plus besoin, le besoin d'être amené à la lumière, le besoin fondamental du pécheur. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a choisi le Messie pour l'envoyer. C'est ce que nous disent les textes de l'Ancien Testament. Juste un verset, Ésaïe 42:6 dit « Moi l'Éternel, on l'a lu ce matin, je t'ai appelé » et donc c'est Dieu qui parle concernant son élu, le Messie. Et il dit, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple pour être la lumière des nations. » Et c'est la raison pour laquelle Dieu envoie Christ. On peut lire encore dans Ésaïe 49, un autre passage similaire au verset 6 aussi, hein, Ésaïe 49 et au verset 6. Dieu dit, c'est peu que tu sois mon serviteur. Encore là, il est question du Messie. Hein, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. C'est comme si Dieu disait, bon, c'est une chose que de ramener le peuple d'Israël, c'est une chose que de venir pour rassembler le reste d'Israël. Mais il ajoute, je t'établis pour être la lumière des nations et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu choisit Christ, le Messie, il est loin, d'accord, Christ, et le but même de l'incarnation, c'est la volonté de Dieu d'amener aux hommes ce dont ils ont le plus besoin, c'est-à-dire la lumière qui les éclaire véritablement. L'apôtre Paul, rappelez-vous, quand il donne son témoignage devant le roi Agrippa, il dit qu'il fait ce que les prophètes ont toujours fait, il prêche ce que les prophètes ont toujours prêché. Et qu'il ne s'est jamais détourné de la prédication prophétique. Il est poursuivi, mais il ne fait que faire ce que ses prédécesseurs, donc les prophètes de l'Ancien Testament, ont prêché. Et qu'est-ce qu'ils ont prêché ? Acte 26, versets 22 et 23, il dit, les prophètes et Moïse, ce qu'ils ont déclaré de voir arriver, c'est ceci, c'est que le Christ souffrirait et que ressuscité, le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations, au peuple d'Israël et aux nations. Et il dit que c'est Jésus même qui le fera. C'est bien qu'il dit, il dit, il souffrirait et que ressuscité, le premier d'entre les morts, que ferait Jésus ? Il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Et c'est la mission que lui avait confiée, on l'a lu dans Ésaïe, que Dieu lui confiait, Ésaïe, d'être une lumière pour les nations. Et c'est ce qui sera les premières implications à sa résurrection, c'est d'annoncer cette lumière, d'apporter cette lumière pour répondre aux besoins fondamentaux à la fois du peuple d'Israël et aussi des nations. Et il a dit lui-même, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Ce sont les paroles de Jésus. « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » On trouve ça en Jean 12, verset 46. Et on voit là encore que Jésus exprime que ce qu'il est venu faire, c'est de tirer les hommes de leurs ténèbres, donc leur apporter ce dont ils ont le plus besoin, sortir de ces ténèbres et avoir la véritable lumière. Et la seule manière de chasser ces ténèbres, c'est la seule manière qu'on ait de chasser les ténèbres, c'est toujours d'amener de la lumière. Et la seule manière qu'il y a de chasser les ténèbres dans lesquelles, de sortir les hommes des ténèbres dans lesquelles ils se trouvent, eh bien, c'est d'y apporter la lumière, la véritable lumière. Et l'apôtre Paul, encore, dans son ministère, hein, il dit que Dieu l'a choisi pour accomplir la même chose. Il dit cela en Actes 26, verset 17. Il dit que Dieu lui a dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, au milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Autrement dit, ça c'est Actes 26, versets 17 et 18. Autrement dit, ce qu'on appelle le salut, le fait de passer de la mort à la vie, de passer de la puissance de Satan à Dieu, eh bien, il résume cela en disant passer des ténèbres à la lumière. Donc le salut consiste à passer des ténèbres à la lumière. C'est ce que Pierre dit, hein, que Dieu est celui qui nous a appelés, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, on a étudié cela, il dit qu'il nous a appelés d'où ? Des ténèbres vers où ? À son admirable lumière. Et c'est cela le salut, c'est faire passer des ténèbres du péché, des ténèbres spirituelles à la véritable lumière, à la véritable connaissance de ce qui est vrai, de la vérité. Donc le salut exprimé ici dans ce que Paul dit consiste de passer des ténèbres à la lumière. Et c'est pour cela que Siméon colle les deux choses, hein, quand il dit par exemple « Laisse ton serviteur s'en aller en paix parce que mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Et il dit ce que c'est que ce salut, c'est quoi ? Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Il dit que ça, c'est le salut de Dieu. Le salut de Dieu, c'est d'apporter la lumière véritable aux hommes. Donc le besoin du monde, c'est d'être véritablement éclairé par la véritable lumière. Le besoin de lumière qui concerne le sens de la vie, qui concerne l'existence de ce monde, sa création, son avenir. Le besoin de lumière concernant la mort aussi et la vie. On voit à quel point aujourd'hui on est un peu déboussolé. Hein. On ne sait plus, hein. On a peur de tout. D'accord ? On a tellement peur qu'on nous parle d'un variant qui n'est pas très dangereux et on a encore plus peur que des autres qui étaient plus dangereux. Je ne sais pas, il y a un truc qui on est dans la psychose, dans la panique parce qu'on a perdu un peu, quelque peu, je pense, le sens de la réalité. Et j'entendais des gens qui disaient « Notre rapport à la mort a changé. Il n'est plus comme ceux de nos parents ou de nos grands-parents. » Pourquoi ? Parce qu'on est dans les ténèbres. On a besoin de la lumière véritable de Dieu pour comprendre ce que c'est que la vie, comprendre ce que c'est que la mort. Saisir que la mort n'est pas la conséquence de la maladie. La mort n'est pas simplement la fin de la vie, mais la mort, c'est un acte judiciaire que Dieu a posé en conséquence du péché. Et si on ne voit pas les choses à la lumière de la parole de Dieu, eh bien, on est perdu. On est perdu. On pense que la vie est le bien le plus précieux que l'on a. Mais comme disait quelqu'un, il y a pire que la mort elle-même, si la vie n'a pas été mise en règle avec Dieu. Donc, le besoin de l'homme, c'est vraiment d'être éclairé. Ça, c'est pourquoi le Seigneur est venu, nous disent Zacharie et Siméon. Et puis, troisièmement, on pourrait dire que ce que nous annonce ces textes, c'est que Jésus est la lumière, je veux dire efficace, la seule lumière efficace qui est venue dans le monde. Jésus est la véritable lumière. C'est ce que nous voyons ici. Quand il s'exclame en disant « Lumière pour éclairer les nations », d'accord, ou « Lumière pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres de la vie », il parle de l'efficacité même de cette lumière. Elle va effectivement éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Ça fait depuis le péché d'Adam que ces ténèbres existent dans le monde. Et Zacharie et Siméon peut dire « Maintenant, laisse ton serviteur s'en aller en paix. » Ça, c'est quelqu'un qui a une profonde paix, qui n'a aucune crainte de la mort, qui dit cela. Il dit « Laisse ton serviteur s'en aller en paix parce que mes yeux ont vu ton salut. » Jésus était encore un bébé. L'œuvre de la croix n'avait pas encore été accompli, mais il voyait que cela allait se faire et il avait saisi l'efficacité complète de cette œuvre qui allait amener véritablement la lumière. Et il dit « Laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, parce que mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé dès devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et il pouvait partir avec cette foi profonde en Jésus-Christ et en l'œuvre qui allait être accomplie. Parce que Jésus-Christ est la lumière véritable qui accomplira effectivement tout ce que Dieu a prévu pour le salut des hommes. Il est la lumière qui éclaire véritablement. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean. Regardez en Jean, chapitre 1. Alors, l'évangile de Jean ne raconte pas la naissance de Jésus. Si vous avez été attentif, Matthieu raconte la naissance, Luc raconte la naissance, mais Marc n'en fait pas allusion, mais l'évangile de Jean ne raconte pas véritablement la naissance de Jésus, mais remonte le plus loin qu'on peut ici dans l'existence de Christ. Il nous montre l'existence éternelle de Jésus-Christ et puis parle au chapitre 1 et au verset 14 de son incarnation. Et la parole a été faite chair. Mais aussi, il compare cette parole ici avec les mêmes termes que Siméon et Zacharie. Donc Jean chapitre 1 ici et au verset 3, il dit, on peut lire depuis le verset 1, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Là, il parle de la puissance de cette lumière. Quand il dit « la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue », alors parfois, on peut comprendre cela comme « la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ont repoussé la lumière. Mais le sens ici, le mot qui est utilisé pour ne l'ont point reçu, certains le traduisent autrement. C'est la même chose que, par exemple, c'est le même mot que Jean utilise plus tard, avec le même contraste entre les ténèbres et la lumière, donc en Jean et au chapitre 5, je crois, je n'ai pas noté la référence, mais il dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous, marchez pendant que vous en avez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. C'est le même mot, que les ténèbres ne vous surprennent point. C'est-à-dire que les ténèbres ne vous envahissent, ne vous dominent, hein. Avant d'être vaincu par les ténèbres. Et donc le sens qu'il utilise, on pourrait dire ce qu'il utilise ici au verset 5, que nous avons lu, la lumière est venue, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu, c'est que les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Et c'est pour cela, par exemple, que la Semeur traduit ce verset de cette manière-là. Il dit, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Et donc Jean parle, on pourrait dire quelque part, de la puissance de cette lumière qui, en venant dans les ténèbres, éclaire véritablement. Ce n'est pas une lumière qui vient puis qui est étouffée, tellement les ténèbres sont grandes, elle est étouffée, cette lumière. Non, les ténèbres ne peuvent pas la vaincre. Les ténèbres ne peuvent pas l'étouffer. Et donc, il parle ici de la puissance, on pourrait dire, de cette lumière. Et il parle aussi du fait que cette lumière est une lumière authentique. Regardez, il dit au verset... Au verset 9, il dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Alors, quand Jean parle de véritable, ici, il utilise souvent dans le sens de ce qui est réel, de ce qui est authentique. Pas, il ne fait pas un contraste entre ce qui est faux, forcément, et ce qui est vrai. Par exemple, quand il dit... Dans Jean chapitre 15, quand Jésus parle, il dit « Je suis le vrai cep ». D'accord ? Il ne dit pas qu'il y a de faux cep et que lui, il est le vrai. Il dit qu'il est celui qui est l'authentique, le réel. Et Jésus avait la même discussion avec les Juifs, rappelez-vous, quand il disait « Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. Je suis le pain qui est venu de Dieu qui descend du ciel. » Alors, est-ce que Moïse avait donné du vrai pain? Est-ce que la manne est un vrai pain? Oui, la manne est un vrai pain qui nourrit. D'accord? Mais il dit ici que ce qui donne réellement la vie spirituelle, c'est lui, c'est ce qu'il veut dire. Il est le véritable. Donc, il utilise en contraste, on pourrait dire ici, avec ce qui était provisoire, un petit peu. Quand il dit « Je suis la véritable lumière ». Donc, il y a eu des lumières qui ont été amenées, hein, plus ou moins. Parfois, c'était plus ou moins flou. Il dit là, il est vraiment celui qui est la véritable lumière, qui éclaire véritablement. D'accord. Comme la manne était un vrai pain, d'accord, eh bien, mais pas suffisant, il dit lui, il était le pain de Dieu qui descend du ciel. Donc, quand Jésus dit « je suis la véritable », quand Jean dit plutôt qu'il est la lumière véritable, il révèle que Jésus est l'accomplissement de tout ce que Dieu veut apporter. Il est Dieu lui-même qui est lumière, qui éclaire pleinement. Il est la lumière ultime, la lumière suprême. La véritable lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éclaire tout homme. Elle éclaire, c'est ce qu'il dit ici, regardez verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un principe, un raisonnement, mais il dit que c'est une personne qui vient dans le monde et qui éclaire tout homme. « Je suis la lumière du monde », Jean 8, verset 12, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, il est cette lumière de manière exclusive. Il n'y a aucune possibilité d'avoir une lumière sur quoi que ce soit hors de Jésus-Christ. Et c'est ce que Jean annonce quand il dit « Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. » Même la connaissance que l'on a dans le monde, dans la science et tout cela, on ne l'a que parce que Dieu a révélé des choses dans sa nature. ce que l'Évangile dit. L'apôtre Paul dit que ce qu'on peut connaître de Dieu dans la nature est manifeste, Dieu le leur ayant fait connaître. C'est Dieu qui fait connaître des choses aux hommes à travers la nature. Alors, il dit, les hommes le rejettent néanmoins. Mais la connaissance qu'on peut avoir, quand on découvre des choses, ce n'est pas quelque chose qui vient parce que l'homme est hyper intelligent. Cela vient parce que Dieu le révèle. Bien sûr, il donne l'intelligence aux hommes, mais il rend cette nature accessible à l'intelligence. Et donc, quelque part, on pourrait dire qu'il donne, c'est lui qui apporte cette lumière pour que l'on puisse saisir les choses dans la nature. De même, spirituellement, bien Jésus est la lumière qui nous permet d'accéder vraiment à la connaissance parfaite de Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui nous l'a fait connaître. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'autre chemin pour connaître Jésus-Christ, que pour connaître Dieu, que celui qui passe par Jésus-Christ, parce qu'il est la révélation de Dieu, il est la lumière de Dieu, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et c'est ainsi seulement que l'on peut le connaître. C'est la lumière qui éclaire, qui rend toute chose visible. Il y a des lumières qui n'éclairent pas, vous savez, pas forcément, ou qui nous empêchent de voir la véritable lumière. On dit que Paris illumine Paris, on a dit ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais les campagnards, ils se moquent de nous parce qu'ils disent à Paris, vous ne voyez pas la lumière des astres, des étoiles dans le ciel à cause de votre lumière artificielle. Donc il y a des choses que nous appelons lumière et qui parfois nous empêchent de voir ce qu'est la véritable lumière. Et spirituellement, je crois que c'est la même chose. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 4, 4 que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller les splendeurs de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Il dit que ce que l'ennemi est en train de faire, ce que le diable fait, c'est qu'il aveugle. Alors, c'est assez particulier parce que, bon, on dit qu'on est aveuglé par la lumière, mais là, il aveugle avec les ténèbres. Et comment en faisant miroiter d'autres choses qui sont des pseudo-lumières, d'accord, mais qui détournent, qui ont pour but d'aveugler simplement. Il se déguise en ange de lumière, mais pour mieux tromper, pour mieux aveugler et pas pour éclairer. Et donc, Paul établit à la fois un parallèle entre la lumière même de la création et la lumière de la rédemption. Il dit ceci, il dit que Dieu qui a dit que la lumière brillera au sein des ténèbres, ça c'est la lumière de la création, c'est Genèse chapitre 1, verset 3, et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, eh bien, il dit le Dieu qui a dit cela a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et donc, Jésus-Christ est celui qui apporte la véritable lumière dans les cœurs. La véritable lumière poursuit un seul but, celui d'éclairer spirituellement tout homme. Et c'est toute l'œuvre du ministère de Christ. C'est d'apporter, par le salut, la lumière aux hommes. Et quand cette lumière vient, bien, il y a une connaissance qui change. C'est la conversion qui est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Il y a des gens qui, parfois, donnent leur témoignage avant de connaître Christ. L'Évangile, la Bible, Dieu, ça paraissait quelque chose de... voilà, c'est de la mythologie, n'est-ce pas? Voilà, ça n'a pas d'intérêt, ça ne peut pas être vrai, etc. Et puis, ces mêmes personnes, un jour, Dieu les touche et du jour au lendemain, leur conception change. Il y a une lumière qui pénètre leur cœur, leurs yeux s'ouvrent et ils peuvent enfin voir réellement. Mais à moins d'avoir cette lumière qui vient de Christ, on demeure aveugle et ces choses nous paraissent insipides, c'est du non-sens. Et même l'apôtre Paul dit que pour certains, c'est une folie. Mais quand Dieu éclaire le cœur, tout se met en place et ces choses deviennent une réalité. L'apôtre Paul, quand il se convertit, qu'est-ce qu'il voit sur le chemin de Damas? Il dit une grande lumière. Et instantanément, sa vie est changée. Sa vie est changée. Et il dit qu'il y a un voile qui demeure même sur le cœur de ceux qui ont la loi, en parlant du peuple d'Israël, tant qu'ils ne connaissent pas Christ. Et il dit que ce voile ne tombe qu'en Christ. Dans 2 Corinthiens, je crois que c'est au chapitre 3 qu'il dit cela, il dit que quand le peuple d'Israël lit encore la loi, eh bien, il ne voit pas Dieu tel qu'ils doivent le voir parce qu'il y a un voile qui demeure dans leur lecture, ici. Mais il dit ce voile saute en Christ. Alors, 2 Corinthiens, j'espère que je vais trouver ce passage, on peut regarder ça rapidement. 2 Corinthiens au chapitre, il me semble que c'est 3, mais ou 4, je ne sais plus. Alors, c'est 2 Corinthiens au chapitre 3.15. Voilà, 3.15, merci. Il dit, verset 14, il dit, « Ils sont devenus durs d'entendement. » Vous voyez, ils rejettent. Pourquoi ils rejettent ? « Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » Quelque part, il dit que la lumière ne vient qu'en Christ, même quand on lit l'Ancien Testament. C'est pour cela que Siméon dit, oh, « Lumière pour éclairer les nations. » Les choses deviennent plus claires quand il voit l'accomplissement en Jésus-Christ. Les choses se mettent en place. C'était comme un puzzle, là les pièces étaient un petit peu éparpillées. Tout se met en place en Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. Car verset 6, c'est là qu'il dit, voilà, j'étais au verset 15. « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Et c'est pareil encore aujourd'hui. Il dit, oui, moi, les choses de Christ, ça me paraît, oui, bon, ça, bon, est-ce que c'est ça la seule religion, est-ce que c'est ça, etc. Pourquoi tel truc n'est pas bien, pourquoi tel autre n'est pas... Il faut prier pour que le voile tombe et que la lumière de Christ pénètre les cœurs. Quand la lumière de Christ pénètre le cœur, les yeux s'ouvrent et enfin on voit les choses telles qu'elles sont réellement. D'accord. Sinon, tout paraît flou et on s'imagine des choses, à moins que Christ ne nous éclaire. Il est la véritable lumière. La Bible dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Il faut la lumière de Dieu pour voir la lumière de Dieu. Sinon, on demeure aveugle. Et c'est pour ça, chers frères et sœurs, qu'il faut prier pour que cette lumière puisse pénétrer dans les cœurs. Si nous voulons donc, je termine avec cela, être éclairés, si vous voulez être éclairés, c'est vers cette source qu'il faut aller, vers Jésus-Christ, tel qu'il est révélé dans les Écritures. Lui seul peut donner la vie et apporter la véritable lumière de la connaissance. Il y a des gens qui disent, moi je veux connaître, et puis analyser avec ma raison, et puis si ça tombe bien, eh bien, je pourrais accepter ou non. Ça, c'était la philosophie du siècle des Lumières. Tout analyser avec la raison. Mais ici, il est question d'aller vers celui qui est la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et donc, pour ne pas être dans les ténèbres, il ne faut pas d'abord chercher à comprendre toute chose, il faut venir à celui qui est la lumière. Et ainsi, il nous éclaire et on ne marche plus dans les ténèbres. Et pour ceux qui sont des enfants de Dieu, en tant que croyants, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. C'est de penser, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met dans le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Les vrais, je vais dire ça un petit peu, ne soyez pas fâchés, mais les vraies guirlandes de Noël sont les croyants. C'est eux qui sont les vraies lampes qui éclairent, que Dieu a choisi pour éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres. Et nous devons briller. Jésus dit que votre lumière luise devant, ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alors bien sûr, les croyants ne sont pas une source de lumière en eux-mêmes, mais le fait qu'ils sont à Christ, et qu'ils ont placé leur confiance en Christ, et qu'ils ont été rachetés par lui. Mais comme Jésus dit, mais des sources d'eau vive jaillissent d'eux-mêmes, et ils sont à leur tour des lumières, des êtres qui reflètent Christ et qui apportent la connaissance de Christ autour d'eux. Donc, nous sommes appelés en cette période à être aussi des lumières, comme Jean-Baptiste, qui brillent dans le monde, afin que les hommes puissent voir cette lumière et qu'ils puissent s'approcher de celui qui est véritablement la lumière du monde, Jésus-Christ, qui est venu pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous te remercions, notre Dieu, pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu es venu, tu es la lumière du monde. Et Seigneur, tu as vu les ténèbres dans lesquelles nous nous trouvions et tu, plein de compassion et de miséricorde, tu es descendu. Tu nous as visités et tu es venu jusqu'à nous pour nous éclairer, pour nous faire passer des ténèbres à ton admirable lumière. Et nous te prions qu'encore aujourd'hui, des hommes et des femmes se tournent vers toi dans cette période de turbulence que nous traversons, que tes enfants puissent porter, fermer haut le flambeau et faire entendre encore ta parole, parce que tu es le Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Et tu es la lumière du monde. Celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que beaucoup parviennent encore à cette lumière aujourd'hui, pour la gloire de ton nom. Amen.